Je veux sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes. Allez-y.
J'adore ça. Moi, je sors tout le temps.
Putain, ça sortait.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Les touches fermes, sortez.
Oui, franchement, c'est trop chouette. Oui, la culture. Allez-y, quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est
cool. Sortez les jambes.
Ok, vous voulez sortir?
Au chien bleu, chez le
veto, veuillez sortir.
Je suis chocolat,
Vous sortez tous avec nous.
Sors!
Alors, il est 16h sur Radio Campus Tour 99.5 et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme toujours Lola et avec moi, Elio.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de William Rock de l'atelier d'Albergia. Bonjour.
Bonjour.
Avant de commencer, on tenait à préciser que nous sommes dans les locaux de D'Albergia, au 10 rue des Tanneurs, en plein centre de Tours, pour faire cette émission. Donc merci à vous de nous accueillir ici.
Ah bah, ça nous fait très plaisir.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours ?
Alors, bah moi c'est monsieur William Rock, donc je suis musicien. À l'origine, on a monté cette boutique donc, qui s'appelle D'Albergia, donc au 10 rue des Tanneurs, en effet, à Tours, avec monsieur Mathis Merlet. Donc, nous sommes tous les deux en fait passionnés de musique. Et bah, mon nom de famille, moi, c'est ce qui m'a lancé là-dedans, malheureusement. Donc c'était à l'école primaire, tu fais du rock. Du coup, bah, je me suis mis à faire du rock. J'ai aussi un papa qui fait de la musique. Donc on s'est embarqué dans cette aventure. Qui est l'un, voilà, donc la facture instrumentale, l'un des marchés de la musique originelle.
Est-ce que vous pouvez nous dire du coup ce qu'est D'Albergia un peu plus précisément et ce que vous faites dans ce local ?
D'Albergia, donc, c'est une structure qui propose la réparation et l'entretien des instruments à cordes pincées, d'instruments de musique à cordes pincées. On propose plein d'autres services annexes, notamment comme la vente de produits en boutique, le dépannage, plein d'autres choses. Donc c'est une entreprise très jeune, on a un mois et demi. Donc voilà, on a plein de choses encore à travailler et plein de choses à découvrir et plein de nouvelles personnes à rencontrer, donc c'est super. Et donc on porte voilà alors plein de valeurs comme l'écologie le savoir-être, le fait d'avoir une boutique à Tours, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour la lutherie en tout cas. Donc on espère voilà qu'aussi on portera éventuellement des valeurs d'emploi et des valeurs commerciales adaptées.
Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient le nom d'Albergia ?
D'Albergia, alors c'est le nom d'une plante. Donc c'est voilà, il y a selon les sources, c'est soit la classification palissandre, donc en latin. Donc ça, c'est pour ça que nous on l'a utilisé. Mais c'est aussi, on va dire, vraiment un genre beaucoup plus vaste de plantes dont le palissandre ferait partie. Donc c'est une appellation latine. Donc forcément en français c'est un peu dur à dire, mais les Espagnols n'auront aucun souci à le dire, ça c'est sûr. Donc nous on a choisi ce nom notamment parce que le palissandre c'est un bois qui est très utilisé en lutherie. On s'en sert pour le dos, les éclisses, la touche, parfois pour les tables rapportées, les plaquages des instruments. C'est un bois extrêmement noble et c'est aussi un bois qui est en danger. Donc qui est en grand danger. Il y a plusieurs variétés de palissandre, donc comme le D'Albergia nigra, donc qui est le palissandre de Rio, qui est même interdit en fait à la vente. On peut plus le découper, on peut plus en faire commerce, sauf l'old stock, donc les choses qui ont déjà été découpées peuvent être vendues ou transportées. Mais donc ça va aussi de pair avec les valeurs écologiques qu'on porte. On reste quand même sur un marché qui porte de grands enjeux sur ses épaules. C'est plus de 500 000, entre 400 et 500 000 instruments à cordes pincées qui sont achetés en France chaque année. Donc c'est beaucoup. Donc il y a ça doit être 21%, non c'est 41% coûtent moins de 200 euros. Okay. Donc nous on doit agir pour faire changer on va dire cette tendance. Et donc voilà, on s'est dit que le nom allait bien de pair avec nos valeurs écologiques en tout cas.
Et d'où est venue votre envie de faire de la lutherie et de travailler le bois ?
Alors, moi, je suis tombé dedans un peu par hasard. Comme je l'ai dit précédemment, je suis passionné de musique depuis que j'ai commencé la guitare à 11 ans. Et mon but dans la vie, c'était devenir une rockstar ou une popstar ou une star, voilà, un truc. Parce que voilà, je fantasmais beaucoup là-dessus. J'avais moi-même mes stars en tête. De grands guitaristes, de grands chanteurs, de grands rappeurs même. Et je voulais me lancer là-dedans. Donc j'ai tenté de me professionnaliser en allant à l'école Tous en Scène. Et par hasard, après, vu que j'avais besoin d'argent, je me suis dit, bon, je vais travailler en magasin de musique et rien d'autre. Et j'ai été pris en magasin de musique. Donc en lutherie, donc c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base, mais j'ai décidé de me lancer dans l'aventure, même si ça faisait un petit peu peur au début. Et voilà, après un an, deux ans de lutherie, c'est devenu vraiment une grande passion pour moi et donc maintenant une vocation. Et Mathis, alors c'est un peu similaire, mais lui c'est un peu moins par hasard. Lui, il a vraiment cherché à faire l'apprentissage. Nous, on a travaillé un an ensemble au magasin Cap Music, c'est là qu'on a commencé notre apprentissage notamment. Et donc lui, il est arrivé là-bas un an après moi, et lui avant, il était artisan boulanger. Et donc voilà, suite à des soucis de santé, se reconvertir, tout à fait, merci. Et donc lui, il est passionné de musique pareil depuis son plus jeune âge. Et il s'est dit, bon, je vais faire des guitares, je vais en réparer. Et donc il a suivi ses objectifs et maintenant on en est là.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une raison particulière d'avoir choisi la ville de Tours ?
La ville de Tours, la raison primaire, alors c'est parce que Mathis et moi, on habite là. Donc forcément, c'est plus pratique. Alors moi je suis parti un moment, donc c'est pas forcément que cette raison là, mais c'est parce que voilà, je suis revenu là par amour, donc forcément ça fait que on a quand même fait une petite étude de marché, la raison principale c'est qu'on habite là. Mais on a quand même beaucoup analysé le marché et on s'est quand même posé pas mal de questions dans le sens où on est tous les deux diplômés, on a tous les deux de l'expérience dans la lutherie, on a fait une école, on a fait l'ITEM au Mans. Donc pourquoi est-ce qu'on trouve pas de travail, quoi ? On s'est dit, je veux dire, à Tours, il y a quand même 3 magasins de musique, 5-6 artisans luthiers, on doit être 11 qui font de réparation, de l'entretien des instruments de musique à cordes pincées. Comment ça se fait qu'on trouve pas de boulot ? La seule réponse logique, c'était d'ouvrir ce projet. Et donc, on a bien étudié le marché pour proposer notamment quelque chose de nouveau, un aspect boutique, des valeurs, donc, comme je le disais, écologiques, on va dire même assez ambitieuses. Quelque chose qu'on va pas forcément nous montrer, notamment sur les spectacles, proposer du dépannage, proposer des services annexes qui n'existent pas à la base. Et donc voilà.
Merci beaucoup. Vous parlez justement du manque d'offres. Est-ce que vous accueillez, vous avez pour ambition d'accueillir des apprentis ou des stagiaires ?
Alors on a pour projet de le faire, oui, clairement, notamment des apprentis. Pour l'instant, vu qu'on vient d'ouvrir, on n'en a pas encore les moyens. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire, on va dire, peut-être l'an prochain, dans les 2-3 prochaines années. Ce serait super, on croise les doigts. Des stagiaires, oui, mais pareil, en fait, nous, on a une politique qui vise à rémunérer, en tout cas, le travail des éléments qui viennent nous accompagner, nous aider et découvrir notre métier. On prendra plus des stagiaires si on est à même, pareil, de les rémunérer. Bien entendu, après, les stages de troisième, les stages un peu obligatoires, on se tient à disposition des élèves pour les accompagner dans ces projets-là et, Et voilà. Au-delà de ça, nous on propose, après ça, c'est plus, on n'est plus dans le stage et dans la, on est plus dans la formation, mais on propose ouais, la formation à l'assemblage d'instruments, au réglage des instruments, pour devenir un petit peu plus indépendant dans le, éventuellement dans le réglage de son instrument, ou voilà, où j'ai monté ma première guitare tout seul, c'est moi qui l'ai fait. Il y a quand même un truc assez sympa là-dedans, donc on propose ça.
Merci beaucoup. Alors, vous avez une boutique sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut y retrouver et peut-être l'utilité de certains produits qui s'y trouvent ?
Sur notre site internet, donc c'est assez récent, c'est tout neuf. Depuis 2 semaines, en effet, on affiche nos produits qu'on vend, les produits qu'on vend en boutique sur le site internet. Alors, heureusement ou malheureusement, alors on compte pas faire de la vente à distance, dans le sens où c'est vraiment toute une logistique et on trouve pas que c'est vraiment un mode super écologique de vente. Donc, on préfère se cantonner au physique, quoi. Donc on accueille nos clients pour qu'ils viennent éventuellement récupérer les produits qu'ils ont commandés sur internet, et donc sur internet comme dans notre boutique on peut trouver notamment tout ce qui va accompagner le musicien dans son aventure musicale et dans l'entretien de son instrument. Pareil, on va avoir des éléments qui vont servir à protéger l'instrument, des éléments, voilà, des sangles, des produits d'entretien. On travaille notamment des marques françaises comme Harmonix ou Tom Vintage Straps. Donc pareil, on essaie de faire un petit peu travailler l'économie française, sachant que la France s'industrialise de plus en plus, notamment en musique, et c'est une super alternative, pareil pour des raisons purement écologiques, aux US ou à la Chine. Donc c'est ce qu'on peut trouver chez nous.
Merci beaucoup, et je crois que vous êtes en lien avec plusieurs structures et spectacles locaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire ce que vous faites justement avec ces structures ?
Oui, on est affilié à plusieurs structures. Alors certains vont être des salles de spectacle, on souhaite aussi être affilié, enfin c'est en cours de discussion, on souhaite être affilié avec les écoles de musique, et on est aussi affilié à un autre luthier à Tours qui s'appelle Ronan Thiraud, donc Guitar Tour. Qui est sur les rives du Cher. On essaie de travailler un petit peu aussi main dans la main avec le paysage culturel tourangeau, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens. C'est une ville qui est un petit peu à part de ce point de vue-là. On a quand même deux scènes de musique actuelle, donc deux SMAC. On a aussi une coopérative, donc le Bateau Ivre, et on travaille donc avec Le Temps Machine, donc il y a un partenariat en cours de traitement, et on a déjà travaillé et on travaille toujours avec le Bateau Ivre, donc notamment pour montrer notre travail, démystifier un petit peu l'idée qu'on peut se faire d'un luthier, c'est-à-dire que de manière générale, moi-même, hein, quand j'imaginais un luthier, c'est tout de suite très magique, mais même si donc on a un savoir-faire que tout le monde n'a pas, ça c'est clair, et des techniques, et une technique de manière générale qui est la réparation et la fabrication d'instruments de musique, on n'est pas magicien et on peut pas tout faire, et c'est bien de pouvoir le montrer, d'éduquer un petit peu notre clientèle là-dessus, et aussi simplement de pouvoir partager un petit peu. Par exemple, on a fait une jam au Bateau Ivre et on a pu beaucoup beaucoup échanger avec des musiciens. On a réglé un petit peu des instruments parce qu'on a proposé le réglage. C'est des occasions aussi où on propose du réglage gratuit pour les gens qui performent, en tout cas sur scène. Donc c'est toujours des moments d'échange, c'est un petit peu nos moments un peu détente, vacances pour nous, et donc il y a ça, et puis aussi donc je parlais du dépannage tout à l'heure, on se doit d'être partenaire, on va dire, avec les salles de spectacle pour faciliter la prise en charge, c'est-à-dire qu'un musicien qui a des soucis sur sa guitare et qui doit jouer dans une heure, il n'a pas forcément le temps de chercher sur Google, ça peut être la panique. Donc avoir un service qui permet, s'il en parle à la salle, ils peuvent nous contacter différemment, il y a un numéro qui est mis à disposition par la salle, sur leur newsletter, etc. Et ça, donc, c'est quelque chose qu'on fait avec Ronan Thiraud, aux rives du Cher, donc c'est quelque chose qu'on propose en partenariat pour accessibiliser le métier de luthier de manière générale. Voilà.
Merci pour cette première présentation. On va pouvoir y revenir plus en profondeur juste après. On va faire une première pause musicale sur le 99.5 Radio Campus Tours. On écoute tout de suite Too Bad des Rival Sons.
Et c'était Too Bad des Rival Son sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui en compagnie de William Rock, co-créateur de D'Albergia, un atelier de lutherie situé 10 rue des Tanneurs à Tours.
Et donc, pour en savoir un petit peu plus sur les services, je crois que vous proposez trois services principaux ici à D'Albergia. Donc l'entretien, la réparation et le dépannage, si je ne me trompe pas. On va donc commencer par l'entretien. Comment est-ce qu'on entretient sur un instrument à cordes correctement? Comment on...
L'entretien, en fait, c'est trois... Alors le dépannage, c'est vraiment quelque chose de très à part.
Ouais.
On va dire que les trois services principaux qu'on va proposer, donc oui, en effet, c'est le réglage, l'entretien. Le deuxième service qui est un peu à part, en effet, c'est plus la réparation.
Ouais.
Parce que ça, c'est vraiment un client qui va venir réparer un instrument, et il n'a pas vraiment le même besoin. On va dire que c'est deux services à part. Et après, il va y avoir, on va dire, la fabrication, donc l'assemblage d'instruments de musique. Ouais. Donc, on peut customiser sa guitare. Ça, c'est quelque chose aussi qui est disponible sur le site web. C'est en cours d'élaboration. Mais on peut en voir déjà un petit peu l'ébauche sur le site web. Donc, on peut vraiment choisir chaque pièce qu'on veut et puis choisir de la faire monter par nous ou pas. Comment entretenir son instrument de musique? Alors, l'entretien et le réglage, c'est deux choses qui vont de pair. Déjà, il faut être attentif à son instrument de musique. Il faut oublier l'idée que c'est un jouet ou que c'est un objet. C'est pas juste un objet, c'est un vecteur de musique. La musique, c'est quelque chose qui pour moi est super important. Chacun a sa relation avec la musique, et chacun a sa relation avec son instrument. Seulement, l'instrument, c'est quelque chose qu'il faut bichonner, soit par un professionnel, soit soi-même au moins regarder et être attentif aux différents éléments qui peuvent alerter. C'est comme la santé, c'est comme les voitures, faut faire attention. Et il faut vraiment pas prendre le réglage de l'instrument à la légère, en fait, parce que à terme... un manque d'entretien, donc si par exemple 10 ans, 15 ans on va pas regarder l'instrument, je parle de, c'est vraiment à long terme, mais parfois en 2, 3 ans je vois des choses vraiment graves qui peuvent arriver à l'instrument, et juste le fait de pas l'avoir entretenu, réglé régulièrement et fait voir par un professionnel, ça fait qu'en fait instrument, il peut devenir injouable, et c'est triste, mais c'est poubelle. Déjà, on encourage à l'achat d'instruments un peu plus chers, donc plus qualitatifs d'entrée. C'est pour ça que maintenant on propose l'assemblage. Il est important de nettoyer régulièrement son instrument. Notamment, il y a certains vernis qui durcissent sa vie, qui ne sèchent jamais. Le nitrocellulose, par exemple. Et quand il n'est pas nettoyé, en fait, la crasse sèche dedans. Elle sèche avec, et elle fait partie intégrante du vernis. C'est un vernis que s'il n'est pas nettoyé, tout ce qui passe dedans, ça grandit avec son environnement. c'est un peu sale, mais c'est la vérité. Et après, en fait, le truc, c'est que c'est plus nettoyable après. Une fois que, par exemple, un grand fumeur, s'il fume beaucoup, toutes les particules de cigarettes vont se mettre dans ce vernis-là. Et après, le vernis devient jaune et c'est irrécupérable. Ouais. Donc, entretenir au moins avec un bon produit régulièrement son instrument, dépendant de la fréquence à laquelle on le joue. Voilà. Une fois par semaine, déjà, c'est bien. Une fois toutes les deux semaines, c'est bien de mettre un petit coup de chiffon, nettoyer un peu les cordes si on veut qu'elles durent un peu plus longtemps. Ça, c'est des réflexes qui vont faire que, à terme, on aura moins de sous à dépenser chez nous pour de la réparation.
Ouais.
La réparation, c'est un peu le dernier rempart. En revanche aussi, nous, inspecter l'instrument, le faire inspecter par un professionnel pour du réglage, ça, c'est important parce que d'usine, les instruments ne sont pas réglés. Ça, et quand je parle du réglage, ça peut être la hauteur des cordes, ça peut avoir de l'incidence sur le confort de jeu, et notamment sur les guitares acoustiques, ça va avoir une incidence structurelle sur l'instrument. Si les cordes sont trop hautes, c'est beaucoup beaucoup de tension sur la table, et à terme, la table, elle est bombée, et puis après, l'action, elle est trop haute, et enfin la hauteur des cordes est trop haute, et après c'est des gros gros travaux. Donc ça peut être pour ce genre de panne, par exemple, faut parfois compter 500 euros de travaux.
Ouais, ok, d'accord.
Donc ça fait un peu mal au portefeuille. Donc on encourage vraiment une dynamique d'entretien régulier de l'instrument en effet. Et donc faut pas hésiter à nous solliciter. Sur les réseaux sociaux on est très disponible. Pas hésiter à nous solliciter par mail, sur les réseaux sociaux, par appel, même si c'est pas pour acheter un truc ou si c'est pas pour un entretien, pour quelque chose de lucratif pour nous, on se tiendra à votre disposition pour vous guider dans la bonne direction.
Ok. Voilà. Et quels sont les types d'entretiens les plus courants pour un luthier ?
Alors les entretiens les plus courants pour un luthier, ça va être le réglage et le refrettage.
Ouais.
Le refrettage, c'est une action qui peut être assez onéreuse, mais c'est un passage parfois obligatoire dans la vie d'instrument, notamment pour des joueurs professionnels. En fait, les frettes, c'est les petites barrettes qui se trouvent le long de la touche. Donc c'est ce qui va donner la note. Et donc pour plusieurs facteurs, notamment si le manche a vrillé avec le temps, ça c'est le cas de figure où la personne n'a pas du tout emmené son instrument chez le luthier, ou alors a challengé son instrument avec des intempéries, des environnements climatiques extrêmes. Mais ça peut aussi être simplement parce que à force de jouer, les frettes se creusent, l'humidité naturelle fait que l'instrument faut surtout pas dire que le bois est vivant, parce que c'est faux.
Oui.
Voilà, donc maintenant on arrête avec ça. Mais non, le bois, c'est pas qu'il est vivant, c'est que il est sujet à l'humidité.
Ouais.
Parce que sa structure est sujet à ça, est assujettie à ça, et donc l'humidité rentre, sort, et donc quand il sèche, il peut tordre, ça c'est quelque chose de normal, et c'est quelque chose sur lequel on est faut être attentif. Mais ça va être les deux piliers un petit peu de l'entretien, ça va être le refrettage et le réglage. Et puis après, le nettoyage, c'est plus anecdotique, parce que ça dépend tout simplement des habitudes d'entretien de nos clients.
Ouais, okay. Voilà. Et donc, dans la réparation d'instruments, est-ce que des fois, il y a des réparations qui ne sont pas possibles, où l'instrument est beaucoup trop abîmé et il n'y a plus la possibilité de rattraper en tout cas l'instrument ?
Alors, il faut savoir que peu importe la réparation qui est effectuée, et c'est là qu'il faut être assez, attentif aussi, c'est que peu importe la réparation qu'on va effectuer, le son va être altéré.
Ouais,
le son va changer. Alors, soit en bien, soit en mal. On ne peut pas savoir. Et ça peut être c'est très souvent inaudible, parce qu'on se débrouille pour que ce soit inaudible. Mais voilà, une réparation, ça altérera toujours l'instrument. Dans sa structure et dans son son, ça fera toujours en sorte que l'instrument restera structurellement solide.
Okay.
Le plus longtemps possible, et sonore aussi le plus longtemps possible et le mieux possible. Seulement, en effet, alors on peut se demander, il y a des instruments qui peuvent être vraiment, vraiment très, très cassés. Et donc, il n'y a pas de limite, en fait, aux réparations qu'on peut apporter à un instrument. Et la seule limite, c'est le prix. Je fais un exemple tout bête, mais par exemple un manche vrillé où il y a beaucoup, là par exemple nous on a un client qui a un manche qui est dans un état catastrophique, la tige qui est à l'intérieur est trop vieille, donc elle bouge très mal, donc faudrait la changer, le fretage est pas bon, donc faudrait le changer, et donc rien que pour le manche c'est 500-600 euros de budget.
Ouais.
On trouve des manches déjà pré-travaillé, fait en France à 150 euros si on se débrouille bien, mais en moyenne un manche ça coûte 300 euros.
Okay.
Là nous c'est là qu'on fait réfléchir un petit peu nos clients. Vous, est-ce que votre instrument, vous y tenez? Enfin, à quel point est-ce que vous tenez à votre instrument, parce que je suppose qu'on tient forcément un petit peu à son instrument, mais donc voilà, ça va être ce tarif là est-ce qu'on fait ou pas.
Ouais.
Donc il n'y a pas vraiment de limite aux réparations qu'on peut faire, tout est possible, et l'humain a un esprit suffisamment ingénieux pour inventer des procédés qui feront qu'on pourra tout réparer. Chaque réparation est différente. Là par exemple on doit recoller la tête de la guitare d'un client, il y a des renforts à faire, il y a des choses à faire, et donc nous on invente des dispositifs qui vont nous permettre de le faire. Okay. Donc voilà, ça répond un petit peu, j'espère, à votre question.
Ouais.
Bon, si, le seul truc du dépannage, ouais. Alors il n'est pas disponible que pour les... Le dépannage, il n'est pas disponible que pour les salles de spectacle, ouais. Et pour les pros. C'est un truc qu'on met à disposition du mardi au samedi alors de 9h30 à 22h. Okay. Donc à tout moment en fait on peut appeler Ghostbusters donc nous non on peut nous appeler pour le dépannage d'un instrument. Et donc il y a plusieurs façons de procéder. C'est soit nous alors ce qu'on fait c'est qu'on récupère un max d'infos au téléphone pour savoir déjà si on se déplace parce que parfois il y a des soucis qui peuvent être rectifiables par la personne ou si c'est vraiment pas grand chose ouais. Ou que c'est une fausse alerte voilà mmh. on va faire attention à pas se déplacer oui. Pour rien parce que c'est quand même des frais pour notre client et puis pour nous aussi tout simplement donc on prend beaucoup d'informations au téléphone quand il y a le feu vert on vient sur place on fait signer des papiers et donc soit on prend en charge la réparation dans l'instant si c'est possible okay. Si on a assez de temps pour le faire si c'est une tête cassée et qu'il n'y a qu'une heure pour la faire, c'est impossible. Ouais. Structurellement, ce n'est pas possible. Donc, dans le cas de figure où on ne peut pas réparer dans le temps donné, on prête un instrument ou on prête un ampli. Enfin, on peut faire du prêt. Donc, on essaye d'avoir une politique où, peu importe le problème, il va y avoir une solution à court terme. Et après, derrière, on essaye d'apporter la solution à moyen-long terme. Donc, si par exemple, c'est une tête cassée, nous, derrière, on rapatrie l'instrument et on le répare au local. Voilà.
Et peut-être une question qu'on a, un truc qu'on n'a pas abordé encore. Quel instrument vous prenez en charge vous ?
Alors tous les instruments donc de musique à cordes pincées.
Okay.
Donc ça veut dire tout ce qui est donc en fait il y a trois catégories d'instruments à cordes. Il y a les cordes frottées, les cordes frappées, les cordes pincées. Les cordes frappées donc c'est les pianos tout ouais. Simplement. Piano, clavecin, tout ça. Les cordes frottées ça va être les instruments du quatuor plus la viole de gambe, la vielle à roue, c'est l'archet ou alors la roue qui va venir frotter les cordes pour générer le son. Et donc les cordes pincées c'est tout un peu les autres. Mm-hmm. Donc on va s'occuper là on a rentré un oud par exemple, tout ce qui va être le oud c'est un instrument qui se rapporte un petit peu aux luths.
Ouais.
Donc ce qu'on imagine un petit peu du luth, le oud, la guitare baroque, la guitare classique, la guitare romantique, tous les types de guitares, les instruments, donc les basses, mmh. Les basses électriques, les basses acoustiques, les mandolines, les banjos, tout ce qui va être joué à la main finalement, sans faire l'usage d'un archet. Donc la corde grattée ou pincée, on okay. L'appelle du coup. Donc ça, on va prendre en charge. On va aussi prendre en charge donc la plupart, on va dire, des prestations de réglage sur les violons et les altos, donc okay. Pour les cordes frottées. Mais on va s'arrêter là parce que les violoncelles et les contrebasses, c'est vraiment toute une autre gestion dans le sens où c'est des très gros instruments. Il ouais. Faut faire très attention avec ces instruments. Nous, c'est un savoir-faire qu'on n'estime pas avoir. Donc pour le maintien structurel de l'instrument, on redirigera toujours de toute façon vers un luthier corde frottée compétent. Okay. Donc il y a par exemple Alain Pignou, Lame et la Corde à Tours Centre.
Alors juste peut-être une dernière question pour le dépannage et l'entretien.
Ouais.
J'imagine que la lutherie je sais pas comment dire, le métier est apparu, ouais. Il n'y avait pas encore les instruments électriques, et ouais. Maintenant, est-ce que ça devient plus compliqué pour vous ? Est-ce que vous avez besoin d'une formation peut-être pour réparer des instruments électriques ?
Alors, nous, en lutherie, tout ce qui touche aux guitares, on est censé pouvoir les réparer.
Okay, ouais.
Donc tout ce qui touche à l'électronique d'une guitare passive, donc voilà, par exemple une Fender Stratocaster, c'est une guitare passive où il n'y a pas de pile en fait.
Ouais.
Nous on peut le réparer, donc on est apte à faire du câblage, à détecter des pannes, etc. parce que c'est quelque chose qui est tout à fait à notre portée et qui a fait partie de notre formation de luthier.
Okay.
En revanche, certains instruments. Après, c'est du cas par cas. Certains instruments ont une pile, et si par exemple il y a une carte préamplifiée qui est grillée, des choses comme ça, nous on peut pas faire de la micro soudure parce qu'on n'est pas une usine.
Ouais.
Donc ça on n'est pas capable de faire. Ce qu'on est capable de faire, c'est commander des pièces et les remplacer dans ce genre de cas de figure possible. Mais dans tous les cas, on essaye de trouver de toute façon une solution pour notre client. Après, tout dépend un petit peu du délai. Et puis, faut parfois être patient, mais on trouve toujours une solution.
Ok, d'accord.
Merci beaucoup, William, pour toutes ces réponses. On en sait déjà plus sur vos activités et vos missions au sein d'Albergia. On va faire une seconde pause musicale sur le 99.5 FM Radio Campus Tour. On écoute tout de suite Lazy de Deep Purple.
C'était Lazy de Deep Purple et je te rappelle que tu écoutes toujours Radio Campus Tour 99.5 FM. Nous sommes toujours en compagnie de William Rock de l'atelier de lutherie d'Albergia.
Moi, dans mon imaginaire, avant de faire les recherches, luthier, c'était forcément les violons. Fou, je suis contente de venir ici aujourd'hui parce que j'en apprends un peu plus. Est-ce que du coup, ceux qui répartent les pianos, comme c'est des cordes de frapper, c'est des luthiers aussi ou...
Alors, les pianos, c'est des, ça va être des, il va y avoir des accordeurs donc, qui vont accorder les pianos. Mais de manière générale, alors moi, c'est ce que j'entends, ce que j'ai longtemps entendu en magasin de musique, dès qu'on parle de la facture instrumentale. Donc, la facture instrumentale, c'est le... C'est le fait de fabriquer des instruments. Donc c'est le voilà, la fabrication d'instruments, c'est comme ça que ça s'appelle. Dès qu'on parle de facture instrumentale, donc de réparation, de fabrication d'instruments, on va souvent parler de lutherie. Les gens maintenant disent même j'ai besoin d'un luthier accordéon, j'ai besoin d'un luthier vent, j'ai besoin d'un... Non, mais vraiment, c'est devenu un mot très générique qui prend ses origines en effet dans le mot lutte en fait. Donc la lutte, non je rigole, l'instrument. Donc l'un des premiers instruments à cordes pincées, même si on n'a aucune idée. Par exemple, si on veut retracer l'histoire de la première guitare, on ne sait pas quand. Il n'y a pas de première guitare. Dans le sens où en effet, la lutherie, ça a été c'est le métier de la création des vecteurs de la musique. Donc on retrace un petit peu ses origines, on peut pas vraiment retracer ses origines. Je veux dire, on peut la retracer à la naissance de la musique finalement. Donc je sais chanter, j'ai besoin de taper sur quelque chose pour faire une rythmique. Il y a pas de mélodie, j'ai besoin de créer un truc. Quand je tends une corde, ça fait ça. Et puis après on tend une corde. Mais si j'en mets plusieurs, et l'humain a beaucoup fait comme ça. Donc j'ai envie de dire presque peut-être les premiers luthiers c'était des humains préhistoriques. Donc c'est possible.
Merci beaucoup. Alors, vous mentionnez vous inscrire dans une démarche éco-responsable.
Oui.
Comment cela se traduit-il ? Comment cela se traduit dans l'atelier ?
Alors, dans l'atelier, ça se traduit par un dispositif de fidélisation qui est le recyclage des cordes. Le but, c'est de pouvoir récupérer les cordes de nos clients et de les récompenser pour ça. J'ai appris que ça s'appelait de l'économie circulaire, apparemment. Apparemment, je suis un marketeur sans faire exprès, mais voilà. Et donc, c'est 2% de remise pour chaque jeu de cordes déposé. Donc, ça peut être des cordes, ça peut aussi être des pièces métalliques, même rouillées, en sale état. Ça peut être... Tout ce qui va être métallique finalement, c'est un truc que souvent on l'a tous mis, et moi-même, on l'a tous mis dans la poubelle noire avant. Moi, les cordes de guitare, je les mettais dans la poubelle noire parce que on sait pas trop quoi en faire, et c'est aussi un peu une charge mentale de tout mettre de côté, de tout séparer et d'aller à la déchetterie. Sachant qu'à la déchetterie, j'y vais souvent. 80% du temps, c'est ça va dans le tout venant, voilà. Donc on essaye d'avoir un lien avec les bons réseaux de recyclage, les ferrailleurs, les personnes qui vont éventuellement recycler le bois. C'est quelque chose qu'on travaille pour l'avenir, parce qu'il faut un sacré stockage pour recycler du bois qu'on n'a pas actuellement. Donc déjà il y a ça, d'un point de vue aussi, après c'est très éducatif après. Ça va être beaucoup d'interventions sur les salles de spectacle. Quand on a l'occasion d'en parler, on en parle. En fait, dès qu'on a l'occasion d'en parler, on en parle de ces 500 000 instruments achetés chaque année. Et ça, c'est que les instruments à cordes pincées. Qui font, alors c'est 21% de en volume, c'est des instruments à cordes pincées, puis 28% c'est des pianos. Donc ça veut dire que il y a peut-être 700 000 pianos qui sont achetés en France chaque année aussi. Donc métier de la facture instrumentale porte sur ses épaules ces choses-là et doit être acteur d'un monde meilleur. Qu'est-ce qu'on fait de ces instruments quand ils sont plus utilisables? Un truc sur lequel on réfléchit beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on fait des guitares justement qui valent moins de 200 euros? Ma guitare elle est cassée, ça coûtera 500 euros la réparation, monsieur. Bah ouais, mais elle a coûté 200 euros ma guitare, donc éventuellement travailler avec des assurances, c'est quelque chose qu'on aimerait faire pour simplifier la prise en charge quand quelqu'un a, voilà, je sais pas, il y a son chat ou un voisin qui a fait tomber une guitare, même si elle a coûté 200 euros, c'est bien de pouvoir lui réparer. Donc nous on fait un devis et puis après éventuellement l'assurance peut prendre en charge une partie. Ça c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire. Donc il y a plein de choses en fait qui sont faisables de ce point de vue là. Et puis après, comme j'ai dit, oui, il y a beaucoup d'éducation, donc éduquer les personnes à acheter des instruments plus durables, en fait, tout simplement.
Et comment est-ce que vous procurez les bois ?
Alors, les bois, on se les procure. Alors, malheureusement, dans la région de l'Indre-et-Loire, il y a très peu de scieries qui proposent, en tout cas, les bois, nous, qui nous intéressent, parce qu'en fait, on travaille avec des bois nobles. Et pour dire le moins noble de tous, ça va être le sapélie ou l'épicéa, donc qui sont déjà quand même vachement recherchés, notamment en fait pour leurs propriétés acoustiques. Et puis après, il y a quelque chose de très... j'ai envie de dire, il y a quelque chose de très colonial, élitiste et culturel autour du bois. Ma copine est sociologue, je lui proposerai le sujet. Mais non, il y a quelque chose de très colonial avec le bois. De manière générale, d'albergia, le palissandre, c'est un bois qui a été surexploité par les Européens, par l'Occident, qui ne vient pas du tout d'ici. Vous pouvez marcher autant que vous voulez en Europe, vous trouverez pas de palissandre. Même aux États-Unis, vous en trouverez difficilement. Ce qu'on a nous en France, donc, c'est de l'épicéa et on a du peuplier, on a du chêne. C'est des instruments qui sont très très peu utilisés dans la lutherie. Et pourtant qui ont des propriétés qui se rapprochent de celles de l'ébène, de l'érable. Donc le peuplier, c'est notamment un bois quand il sert pour des plaquages. Maintenant ça se fait de plus en plus chez les luthiers. Donc on s'efforce de trouver déjà des scieries, donc travailler local pour éviter les transports. Mais vu qu'on a en effet besoin, parce que les instruments sont fabriqués dans tel bois, donc souvent donc du palissandre, de l'acajou, donc des bois qui viennent d'Afrique notamment, on est obligé de se procurer ailleurs. Donc on a des fournisseurs en Espagne et au Portugal qui nous fournissent ces bois-là. En revanche, pour tous les bois, on va dire, plus européens, on s'efforce de s'en procurer, plus localement. Oui.
J'imagine que plus le bois est noble et plus le son est bon. Est-ce que ça peut se mesurer comme ça ?
Les classifications de bois sont nobles ou non ? Okay. Après, il y a plusieurs classifications de bois dépendant. Alors, ça va dépendre de l'âge de l'arbre. Ça va dépendre de la beauté des motifs du bois et de son séchage. Donc combien de temps il a été séché, dans quelles conditions. Donc il va y avoir des bois, donc ça va être les catégories, ça va être A, A, 2A et 3A. Donc le A, ça va vraiment être le bois de base, le double A, ça va être mieux en qualité, le triple A, ça va vraiment être le bois de super qualité, avec vraiment des super motifs, etc. Donc oui, selon le bois qu'on choisit, on va pas forcément avoir les mêmes propriétés sonores. De toute façon, voilà, c'est simple, hein, d'un épicéa à un acajou, parce qu'il y a des tables en épicéa, il y a des tables en acajou pour les guitares folk, le son n'a aucun rapport. Oui. C'est drastiquement différent. Donc oui, un bois de qualité fera un meilleur son. Ouais.
Et quelle est l'étape la plus délicate dans la fabrication d'une guitare ?
Je pense que chaque luthier, de toute façon, a sa bête noire en termes de. C'est ce que nous disait Ronan Thiraud. Par exemple, pour Matisse, ça a longtemps été le refrettage. Il a eu, voilà, c'était, ça peut être, ça, c'est vraiment, vraiment une prestation très difficile. Ouais. Et quand j'en entends dire, oh, mais j'ai essayé moi-même, oui, bah oui. non, c'est une prestation extrêmement difficile qui demande une vision des volumes. Et donc, Mathis, il avait beaucoup de problèmes avec ça, mais maintenant, c'est nickel. Des prestations délicates. Il n'y en a pas vraiment en soi, dans le sens où ce qui va beaucoup nous importer, ce n'est pas la prestation en elle-même ou l'action, ça va être la méthodologie. Tout ce qu'on fait a une méthodologie très précise, un réglage a une méthodologie très précise. On ne peut pas s'y prendre dans n'importe quel sens. Il faut d'abord régler ci, puis régler ça, puis ensuite passer à ça, parce que si on fait dans le désordre, autant ne pas avoir fait de réglage, ça on va y prendre des plombes. Donc voilà, on respecte une méthode très stricte et c'est quand justement on échoue à adopter cette méthodologie, c'est qu'on fait des erreurs ou alors que quelque chose est imparfait en sortie et que bah, souvent il faut tout recommencer. Mais on va dire la délicatesse du métier, c'est que l'erreur elle est inévitable. S'il y a une erreur qu'on fera, on la fera. Je veux dire, on est des êtres humains. Ouais. C'est pas encore assuré par de l'IA. Donc, on en fait des erreurs. La délicatesse du métier vient du fait que les erreurs, on les rectifie. Une fois qu'on les a fait, c'est bien qu'on les fasse, parce qu'une fois qu'on les a fait, eh ben, on les refera plus. Ou on abordera, justement, on va apprendre une nouvelle méthodologie. Donc, on apprendra à faire différemment. Mais de manière générale, le client final, le but c'est qu'il soit à 100% satisfait, peu importe les actions commerciales ou artisanales qu'on fera. Le but c'est qu'il soit toujours satisfait.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une part de science dans l'optimisation du son?
Oui. Okay. Ouais, l'acoustique.
Ouais.
Un truc qu'on aimerait beaucoup faire, c'est travailler, donc faire de l'étude. Faire de l'étude, c'est quelque chose qui nous brancherait beaucoup. Il y a l'école qu'on a fait, c'est l'Institut Technique Européen des Métiers de la Musique, l'Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, qui est basé au Mans. Et eux, en fait, ils ont ce qu'on appelle un pôle innovation, et ils ont voilà, les bras très longs quand il s'agit de parler avec les acousticiens, etc. Donc, ils analysent beaucoup les bois. Donc, on parlait notamment des propriétés sonores des bois, en fait. Ils analysent le pourquoi du comment tel bois va avoir telle propriété sonore. Ils vont analyser le son, les micros pour les guitares électriques. C'est un enjeu qui... C'est quelque chose qui, selon moi, n'est pas suffisamment répertorié, qui n'est pas suffisamment travaillé. L'Institut technologique, donc l'ITEM, fait tout ce qu'il peut, il a beaucoup à faire déjà. On est dans un monde qui est un peu pressé pour tout ce qui touche à l'argent, donc ça reste aussi des finances de développer toutes ces choses-là. Faut payer les gens qui le font, faut payer les chercheurs, et donc c'est quelque chose que je trouve est en train malheureusement de passer un peu à la trappe. Dès que je cherche, on va dire, si je vais aller chercher des études sur le son sur une guitare électrique, ça va être très dur de trouver ce que je veux. Donc, on aimerait vraiment pouvoir, développer la science autour de ça, faire de la recherche et développement. C'est tout bête, mais là, on avait un client qui se plaignait de buzz sur son instrument. Donc on a fait vraiment tout ce qu'on a pu, mais il se trouve que les buzz, en fait on peut pas les faire disparaître. Mais on peut pas juste dire ça à notre client. On peut pas juste dire mais c'est comme ça, parce que derrière nous on se doit de montrer une forme de légitimité et on peut pas, enfin même si on dit la vérité, c'est notre vérité et étudier. Tous les points de vue subjectifs à ce niveau-là, plus faire des démarches scientifiques, donc de tests, d'expériences autour du buzz, c'est débile, mais c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est quelque chose que je pense est relativement nécessaire pour rassurer le client, pour nous rassurer nous en tant que luthier et pouvoir aussi créer des solutions à différentes problématiques. Parce qu'en fait, actuellement, tous les micros à sambobinage d'une guitare électrique, bah ouais, ça fait bzzz quand on n'a pas les mains dessus. Et y en a plus ou moins. Il y en a qui le font plus, il y en a qui font le moins. Selon si on est dans un bon environnement électronique, ça le fait moins ou plus. Donc, faut être à même de pouvoir un petit peu trouver des solutions, expliquer à nos clients. Et donc voilà, ça c'est le buzz, mais après il y a plein d'autres choses, les différents micros, pourquoi est-ce qu'ils sonnent comme ci, pourquoi est-ce qu'ils sonnent comme ça, instruire aussi un petit peu notre clientèle par rapport à ça. En fait, c'est des choses qui sont super intéressantes. Je veux dire, on s'est tous surpris à regarder les TED Talks pour un truc qui de base, enfin, je sais pas, j'ai regardé des trucs de magie et je suis pas du tout dans la magie, mais c'est impressionnant et c'est super intéressant. Et apporter aussi un côté entertainment, on va dire divertissant à la science et à la lutherie, c'est un enjeu qui est important pour tout le monde.
Merci beaucoup. Vous parliez tout à l'heure de l'IA, des nouvelles technologies. Quel est votre regard sur ces nouvelles technologies justement et les nouveaux outils qui s'offrent au métier de l'artisanat, comme par exemple les machines à commande numérique par calculateur?
Ouais. Alors toutes ces machines, après c'est que mon point de vue et je peux pas, faut faire pareil en fait, tout ce qu'on dit, faut toujours faire des études et savoir un peu, avoir ses sources, et malheureusement j'ai pas forcément de sources, si ce n'est mon expérience et mon expérience de la lutherie et donc ma connaissance de l'histoire des instruments et de leur fabrication. De manière générale, la guitare électrique, son industrialisation, la guitare, son industrialisation a commencé dans les années 30-40, donc avec Gibson qui a fabriqué ses premiers micros magnétiques, Martin aussi, eux c'est même avant, hein, dans les années 1800, Martin je sais plus quelle année ça a commencé, mais dans les années, au 19e siècle. Donc la musique a commencé, les instruments ont commencé à s'industrialiser, et derrière il y a une mouvance on va dire capitaliste qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire que il a toujours fallu produire plus d'instruments. Maintenant il faut savoir qu'il y a beaucoup plus, mais quand je dis beaucoup plus, il y a 500 000 instruments achetés chaque année, mais il y en a peut-être fois 10 qui sont fabriqués, hein. Je veux dire, pour un instrument vendu il y en a, et je dis 10, il y en a peut-être 100 qui sont fabriqués. Mais ça, pareil, j'ai pas les chiffres. Je sais juste que il y a une grande valeur. Il y a des effets de grandeur. Il y a beaucoup plus d'instruments, oui, qui sont fabriqués que d'instruments vendus. Donc l'utilisation de machines entre dans une démarche de demande et d'offre. Ceci dit, est-ce qu'on peut dire que c'est bon ou mauvais? Moi, j'en ai pas la prétention. Je peux pas dire est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bon, parce que forcément, il y a plus de guitares qui coûtent 300 €. Ça fait que moi, par exemple, quand j'ai commencé la guitare, ma guitare, c'était une guitare en pack. Ça coûtait maximum 150 € avec l'ampli, la housse et tout le bazar. Donc la guitare, elle devait valoir rien. Elle était absolument pas écologique. Elle était faite en Chine. Mais j'ai pu faire de la guitare. J'ai conscience maintenant que c'est pas moi personnellement. À travers mes valeurs, je suis pas super fan. Après voilà, moi j'ai pu me lancer dans la guitare et puis me passionner là-dedans et ouvrir un atelier de lutherie avec Monsieur Merlet. Donc il y a un mois. C'est un sujet qui est assez difficile, notamment nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est de l'assemblage de guitares. Nous, les corps, on les fait pas nous-mêmes. Un corps de guitare à fabriquer, s'il fallait le faire à la main, il faut compter des heures et des heures de travail. Un manche, s'il fallait le faire, si nous, on devait faire nos propres manches. Donc comme je le disais, là, notre client, il avait besoin de réparer un manche. C'était 500, 600 euros. Nous, un manche, pour le faire, c'est entre 10 et 15 heures de travail, parce qu'il faut le tailler, il faut le mettre en forme, il faut le fretter, il faut le planifier, il faut mettre les inlays, c'est plein de petits détails, c'est la pièce maîtresse de l'instrument, ça prend énormément de temps. Alors que du coup, on peut s'en procurer des déjà faits de manière très industrielle par des luthiers en France, parce que ce qui s'est passé, c'est que donc les luthiers ont industrialisé. Industrialiser le marché de la lutherie. C'était inévitable à partir du moment où il y a des Fender, des Gibson qui fabriquent peut-être, je ne sais pas combien de guitares par jour, mais admettons entre 50 et 100 guitares par jour, je ne sais pas. Mais le luthier est obligé, malheureusement et heureusement, pour le client final, pour le consommateur, et pour lui, donc de suivre un petit peu derrière. Donc j'ai envie de dire on est obligé, en fait on n'a pas le choix de se servir des outils qu'on nous met à disposition. Donc l'IA, nous, pour l'instant, elle nous sert pas parce que ChatGPT est pas suffisamment expérimenté. Je lui ai déjà posé plein de questions sur la lutherie, hein, et il m'a surpris. Je veux dire, il m'a dit des trucs que Google peut pas me dire ou que certains articles sont pas capables de me dire. Mais il est pas entraîné à ça, et nous on veut pas forcément créer de la donnée pour nourrir ChatGPT avec, et c'est pas dans nos valeurs non plus. Donc l'IA pas encore, les machines oui évidemment, les machines à commande numérique, elles sont très très utilisées pour la fabrication de guitares maintenant, hein. Je veux dire, j'ai envie de dire 99,9% des instruments que vous trouvez sur le marché sont faits avec de la commande numérique. Il n'y a que maintenant certains luthiers révolutionnaires, certains luthiers, on va dire, qui font ça encore à la main, à l'ancienne, mais c'est pas quelque chose de rentable. C'est quelque chose par contre qui est passionnant à faire, c'est quelque chose qui demande du savoir-faire et qui est très passionnant, mais ça rentre pas dans une démarche industrielle, voilà.
Je crois que dans l'imaginaire collectif, on voit beaucoup le luthier avec ses instruments qui pend au plafond et c'est lui qui construit lui-même.
Ouais, c'est ça. Pour la guitare folk et la guitare acoustique, de toute manière, même en usine, il y a très peu de machinerie. C'est beaucoup de main-d'œuvre humaine. Donc dans les usines, c'est beaucoup de chaînes, etc. Donc avec des salaires extrêmement bas. Donc c'est le produit initial, il coûte très peu cher, hein. Il n'est pas du tout valorisé. En revanche, quand on regarde un petit peu des documentaires sur comment c'est fait en usine, parce qu'il y en a des documentaires là-dessus, les actions que mènent les agents en usine sont de près ou de loin les mêmes que celui d'un luthier. Les seuls éléments qui vont encore être faits industrialisés, c'est avec de la machine mobile, donc de la défonceuse, ça va être le manche. Parce que le manche, c'est vraiment vraiment super long à faire, et vu qu'on est sur un élément quand même vachement droit, la découpe de forme, on va dire, va être faite à la défonceuse, mais on peut pas industrialiser le fait de couper les barrages, de faire le collage, etc. Donc pour la guitare folk, c'est guitare folk classique, on est encore sur quelque chose de très artisanal partout où on va, ça c'est sûr. Après en guitare électrique, maintenant tous les luthiers, on prend Marceau, c'est vraiment le premier Marceau qui a industrialisé la lutherie en France. Nous on se commande les manches chez lui, mais c'est parfait ce qu'il fait. Par contre c'est beaucoup beaucoup de machines. Il a 16 salariés chez lui, mais il y a un ponceur, il y a un vernisseur, il y a des apprentis aussi. Donc, on est sur la lutherie très industrielle quand même. Ouais. Donc, on s'imagine pas trop ça quand on pense au luthier, ça c'est sûr. On essaye de faire notre mieux pour s'amuser dans ce qu'on fait. C'est pour ça que la réparation, c'est le plus fun. Vraiment, c'est peut-être le truc le plus fun qu'il y a dans la lutherie, parce que c'est toujours des réparations différentes. C'est très très artisanal, parce que on n'est pas dans de la fabrication de pièces. On fait assez peu de fabrication de pièces. Ça peut se décaler, peut-être de l'image qu'on a de l'artisan luthier. Ouais.
Et si jamais je veux acheter une guitare, est-ce qu'il y a des indices de qualité, des choses que je peux regarder pour...
Des indices de qualité, il n'y en aura jamais. En fait, tout dépend. Le mieux, de toute façon, le mieux pour acheter un instrument, c'est au minima d'aller en magasin de musique. Ouais. Dans le sens où les gens qui travaillent là-bas ne sont pas là pour vous piéger, ce ne sont pas des concessionnaires auto, ce ne sont pas des mécaniciens. J'ai rien contre les mécaniciens, j'en ai juste entendu du mal.
On les embrasse.
Mais ce ne sont pas c'est pas des gens qui vivent uniquement pour l'argent. Déjà, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont un minimum de passion, parce que magasin de musique, c'est pas forcément le business model où on devient millionnaire, sauf exception. Donc c'est bien déjà d'y aller, bon, on va dire, pour soutenir son commerce local et puis pour soi, en fait. C'est des endroits où on va pouvoir comparer parce qu'on a accès à je sais pas, il va y avoir une cinquantaine de guitares électriques différentes. Donc juste ça, moi je veux une guitare électrique, bah qu'est-ce que ça veut dire, je veux une guitare électrique, donc je veux une guitare électrique pour jouer tel style, ah mais là le manche de celle-là ça va pas, bah regardez j'ai celle-là. Donc il y a vraiment une dynamique d'essayage qui peut être relativement importante dans un instrument de musique, pour l'achat d'un instrument de musique, à partir du moment où on sait pas ce qu'on achète. Je m'explique. Quand on sait pas ce qu'on achète, on a souvent des instruments qui sont un peu moins chers aussi. C'est-à-dire, si on veut, déjà une bonne guitare de moyenne gamme à 600 euros, on a des trucs super, faits industriellement. Mais on n'a pas choisi ce qu'on voulait, on n'a pas choisi le confort du manche, on n'a pas choisi tous ces éléments qui vont faire que c'est un instrument qui est fait pour nous. Donc, on va dire qu'il y a deux écoles. C'est soit on va dans un endroit où on peut essayer plein d'instruments et trouver quelque chose qui se rapproche le plus de ce qu'on cherchait à la base, ou demander à quelqu'un de nous fabriquer ce qu'on cherche à la base. L'idée, voilà, c'est les indices de qualité, c'est les intermédiaires que vous allez avoir qui vont vous les donner par leur connaissance des bois, de la musique, de l'histoire de la musique. Et sur internet par exemple, c'est un truc qui va pas être disponible parce que maintenant internet je crois qu'il était sorti quelque chose quand je travaillais à Vichy. Nous on faisait l'équivalent de je sais pas, vulgairement 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, voilà, en chiffre d'affaires, hein, donc ça veut dire que derrière il y a les marges, etc. Faut savoir que internet fait ce chiffre d'affaires dans cette région par jour, voilà. Donc c'est colossal. Je pense que c'est même un peu, il y a un truc un peu coupable quand les gens achètent sur internet. Il y a un truc un peu plaisir coupable, quoi. Je me suis pris un instrument sur internet, c'était moins cher. Mais derrière il y a un truc, je sais pas, comme quand on mange un fast food, tu sais, on a mangé son fast food, mais derrière je regrette, quoi. Donc je sais pas, moi je me sentirais pas à l'aise d'acheter un instrument sur internet parce que j'ai ces connaissances là. Mais ouais, aussi parce qu'il y a pas d'indicateur de qualité et on n'a pas le sentiment, je trouve pas qu'en achetant sur la toile on ait le sentiment d'avoir acheté un vrai instrument. Je sais pas, il y a quand même un truc, je sais pas, je vais en magasin acheter une Gibson, ça coûte 3000 euros maintenant, c'est le premier prix pour avoir une vraie standard, une Les Paul, donc c'est les modèles du top là. Je sais pas, si j'ai acheté cet instrument sur internet, il y a un rapport à l'objet qui est pas authentique, en fait, parce que je l'ai pas essayé, parce que c'était pas elle. Je sais très bien que quand je l'achète sur internet, je sais très bien que derrière il y en a 2000 autres pareils, qu'elle a pas été checkée, qu'elle a pas été vue par un technicien. Donc voilà, le meilleur gage de qualité, le meilleur indicateur de qualité que vous pouvez avoir, c'est soit un artisan, soit un vendeur en magasin, hein, de toute façon.
Je voulais savoir, rebondir un petit peu sur le commerce en ligne des instruments.
Ouais.
Donc il y a des sites internet qui sont assez connus, je pense à Thomann, à Woodbrass peut-être, qui vont vendre des instruments de peut-être de mauvaise qualité mais à un prix très abordable, mais aussi des instruments de marque et qui vont coûter très cher. Comment est-ce que tu vois ça vis-à-vis du panel qu'ils peuvent proposer d'instruments, où il peut y avoir du bon, du très bon et du très mauvais aussi?
Bah, déjà, ces acteurs sur Internet, et j'ai rien contre. J'ai vraiment rien contre parce que, en l'occurrence, ils ont apporté au marché de la musique une fiabilité qui n'existait pas avant. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, un magasin de musique, je vais être très transparent, hein, il faisait x5 de coef. Donc le coef, c'est le prix d'achat hors taxe. On fait le coef, donc on fait x temps, et c'est le prix de vente, TTC. Ouais. Donc x5, ça représente, voilà, on va dire, un taux de marge d'à peu près 70%. Ouais. Les marges après ça ont complètement chuté. Donc ça veut dire que, alors c'est, je veux pas dire que c'est quelque chose de bon, c'est pas du tout quelque chose de bon pour les magasins. L'ère du magasin est clairement en train de souffrir, ouais. Et ça c'est déplorable. En revanche, pour le consommateur final, et là je parle pas que d'internet, je parle même en magasin, ça a apporté quelque chose de top dans le sens où la marge, elle doit être on a dû apprendre à justifier la marge,
ouais.
Donc maintenant beaucoup de magasins proposent le réglage d'instruments achetés pour justifier une marge un peu plus haute parce que les instruments, forcément les magasins, faut qu'ils vivent, il y a des charges, il y a plein d'éléments qui font qu'un magasin ne pourra jamais vendre, faire autant de volume en fait que ces structures-là. Et donc ça a pas que du mauvais. En revanche, là où ça a fait très très mal au marché, et je pense que c'est pour ma part, je pense que c'est une très mauvaise chose, c'est que ça a rendu la valeur des instruments complètement impalpable. C'est-à-dire que moi, en magasin, ça m'est déjà arrivé d'avoir une guitare que je vendais 789 €. Mm-hmm. Sur Internet, elle était à 460.
Oui.
La même. Donc après, le truc, c'est qu'on peut dire au client, ah ouais, mais quand vous allez l'acheter, ça se trouve, vous allez avoir un problème. Et après, d'être dans l'alerte, d'être dans un verbatim qui est vachement pessimiste et que moi j'ai jamais aimé avoir en magasin, ça c'est sûr. Je préférerais limite dire au client qu'est-ce que vous voulez que je fasse, voilà. Moi je ferai le mieux que je peux pour rentabiliser cette marge pour me tenir à votre disposition, mais bon, il y a des fois où Internet est particulièrement destructeur. Et en fait, le fait que le même instrument peut avoir deux valeurs différentes aussi larges, ça je trouve ça dommage pour la musique en général.
Oui.
Dans le sens où une guitare, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un objet en fait. C'est pas un simple objet, c'est pas un meuble, c'est un vecteur de musique. Mmh. Et donc qu'il ait une valeur qui aille d'un magasin à un autre, on l'est à 10 € de différence, voilà, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. 200 €, 300 € de différence, ça commence à faire un peu gros. Et même pour la personne, en fait, ça fait un peu. Moi, j'achète la même guitare à 400 € au lieu de 700, au lieu de son vrai prix, finalement, ouais. Du prix qu'elle mérite. J'ai un peu le sentiment, je l'ai eu d'occasion, quoi. Enfin, il y a un côté un peu moins. Il y a une attache un peu moins personnelle à l'instrument, et c'est ça que ça crée, c'est que ça crée des instruments qui n'en sont plus vraiment. Maintenant, l'instrument devient de plus en plus un produit inconsommable.
Ouais.
Et ça n'aurait jamais dû être. Donc, en revanche, après que Thomann ou de Brass puissent vendre des produits de telle ou telle gamme, ils vendent de tout, ils vendent de l'accessoire, ils ont le droit, je veux dire. Après c'est bien, justement ils proposent un grand panel de produits différents, en soi ça permet de compléter le besoin. Un client, il peut très bien trouver une pièce détachée, un câble pour aller avec sa guitare, il peut tout trouver au même endroit, mais c'est ce qu'est censé faire un magasin de musique aussi, et à la différence, voilà, un magasin de musique on peut tester. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis aussi, c'est vraiment pas écologique du tout. Ouais. Et ce qui se passe aussi, et ça, en soi, on peut pas vraiment le savoir, mais ce qui se passe, c'est que les instruments, quand je travaillais en magasin de musique, il y a beaucoup d'instruments qu'on refusait parce que ils étaient pas conformes. Et ce que faisaient les fournisseurs dans ce genre de cas de figure, c'est qu'ils renvoyaient sur les plateformes internet, qu'ils les vendent moins cher. Eux, ils checkent pas les cartons, et puis on reçoit une guitare, on l'a vu, on l'a pas vu, s'il y avait un problème. Ouais, mais souvent, les guitares qui se retrouvent sur internet, c'est aussi les guitares que nous on a refusées. Donc il y aura toujours de toute façon un magasin de musique, des instruments qui seront conformes et de qualité. Et l'intérêt, c'est qu'on n'ait pas à réexpédier l'instrument 4 fois pour avoir un truc bien. Et au final, on n'aura jamais un truc bien, parfait, parce que bah il sera pas réglé dans tous les cas. Donc voilà.
Et dernière question, c'était vis-à-vis de vos réseaux sociaux. Déjà, on peut vous retrouver sur des réseaux sociaux.
Ouais, tout ouais. à fait. Alors, on peut nous retrouver notamment sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. On est surtout présent sur Insta,
ouais.
Dans le sens où, bah voilà, nous on est dans l'ère du numérique, donc. Moi j'ai beaucoup fait de montage de vidéos dans ma vie et c'est quelque chose que j'aime bien faire, de la création de contenu, et c'est quelque chose qui est un peu moins possible sur Facebook,
ouais.
Dans le sens où c'est plus de l'image et de l'événementiel, etc. Facebook, donc c'est quelque chose qui se prête un peu moins à ce qu'on fait, qui se prête plus à l'art du spectacle. Et TikTok, on est aussi présent dessus, on partage à peu près en fait ce qu'on fait sur Insta sur TikTok, dans le sens où ça touche une clientèle un petit peu plus jeune. En revanche, c'est pas du tout le réseau sur lequel on est le plus présent,
ouais.
Parce que pour nous il est pas super intéressant, parce qu'il crée très peu de conversions, parce que l'algorithme est moins local, ouais. et donc voilà, on est beaucoup plus présent sur Insta, donc on fait des vidéos explicatives un petit peu de nos réparations, on présente un peu nos produits, et puis après voilà, suivant avec qui on est partenaire, on est aussi partenaire avec un prof de guitare, après on essaie de faire un petit peu des collabs, la création de contenu, essayer d'être présent, et puis on reçoit régulièrement des demandes de réparation ou des demandes de conseils sur les réseaux, et on est très heureux d'y répondre. Nous, ça nous fait toujours plaisir, un peu de contact humain.
Et est-ce que c'est dans votre ligne directrice, cette proximité sur les réseaux sociaux, que notamment toi tu te filmes en parlant directement aux gens qui te regardent à travers leur écran? Est-ce que c'était dans votre ligne directrice, peut-être pour montrer que vous êtes proche aussi des personnes qui pourraient avoir... qui pourrait solliciter votre aide?
Nous, il y a une ligne directrice en laquelle on croit beaucoup, et à la fois dans mon expérience en tout cas du commerce, c'est quelque chose qui est un peu fui, c'est la transparence.
Ouais.
C'est-à-dire que le réseau social apporte une dimension un peu plus... les réseaux sociaux pardonnent un peu plus l'erreur.
Ouais.
Je m'explique. Nous, là, par exemple, on a sorti une vidéo là de... Je sais pas, c'était sur une réparation de barrage. Un barrage qui s'était décollé sous une table de guitare. Donc on a réparé ça et on a fait une petite erreur. C'est pas grand chose, hein, on a fait une petite erreur, mais on n'hésite pas à la montrer. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on aimerait bien apprendre à démystifier ce métier et dire qu'on est des humains et que des erreurs, ça nous arrive d'en faire. Et que le but, c'est que la finalité, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est que le client, dans tous les cas, il est satisfait et que ce soit parfait, que le rendu final soit parfait. Nous, l'erreur, en fait, ce qui est intéressant de nous le développer sur les réseaux sociaux, c'est que pour nous, c'est du temps. En fait, on perd du temps. En fait, ça fait qu'on doit prendre 2 heures, 3 heures, parfois ouais. 4 heures pour réparer un truc que on n'avait pas vu, on a été inattentif, ça arrive et ça se reproduira jamais. C'est ça le but. Le montrer sur les réseaux, j'ai remarqué que ça a une... Les gens sont plutôt responsifs à ça. Ils ouais. aiment bien, dans le sens où ça humanise un peu la profession. Ils se disent « Ah purée, c'est fou, ils nous montrent jusqu'à leurs petites erreurs. Ça crée vraiment une proximité, comme vous disiez. » Et en fait, on est aussi suivi par pas mal d'artisans, en fait.
Ouais, okay.
Et quand on est artisan, voir un autre artisan... dire qu'il a fait une erreur, c'est super rassurant, dans le sens où il y a un genre de règle. Si on a fini ce qu'on a fait et qu'on se dit qu'il n'y a aucun problème et qu'on est tranquille dans ses bottes, c'est qu'on n'a pas bien travaillé.
Ouais, okay.
Systématiquement, après qu'on ait fini de travailler, on va toujours se mouliner le cerveau, se dire « purée, est-ce que ça c'est bien ?» Checker 15 fois l'instrument, tester sur ampli, tester partout. Et il y a toujours cette espèce de... Il y aura toujours pour nous, en tout cas, cette espèce de trac quand on rend l'instrument au client. De purée, ça se trouve
ouais.
Alors qu'on aura tout checké, on aura tout vu, parce que on veut bien faire les choses, et c'est un peu ça rentre dans une dynamique de professionnalisme un peu extrême, mais que nous pensons juste, Et voilà, pouvoir rassurer aussi un petit peu les gens du métier et, et nous rassurer un petit peu par la même occasion et créer du lien un peu avec notre clientèle et nos, nos confrères grâce aux réseaux sociaux. Nous, on pense que c'est chouette. Par contre, ça n'a jamais été voulu. Je veux dire, la façon dont on fait les choses, ça s'est fait purement au feeling. Ouais. Rien n'a jamais été voulu. Enfin, on n'a pas... En soi, on est très... en soi, c'est encore un peu notre défaut sur les réseaux sociaux, mais on a tout le temps d'apprendre. Voilà, c'est, on planifie jamais vraiment rien à l'avance. Moi, je me contente juste de toujours tout filmer. Oui. Je fais ma voix off et je prends 15 ans à faire ma voix off pour que ce soit bien. Mais voilà, on n'a pas vraiment de plan pour chaque vidéo parce qu'en l'occurrence, vu qu'on essaye d'en faire un certain nombre, c'est quand même, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et enfin il y a des guitares à faire. Ça faire de la création de contenu aussi, ça casse le workflow. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un truc et ah je dois arrêter, je dois recommencer mon geste parce que j'ai pas filmé. donc voilà, tout ça c'est des choses auxquelles faut s'habituer et on commence à être assez habitué à ça. C'est pas hyper naturel les réseaux sociaux à la base, donc voilà.
Merci beaucoup. Alors pour finir, est-ce que vous avez un dernier mot à faire passer à nos auditeurs ? Peut-être un point qu'on a omis de mentionner ?
Le dernier mot que j'ai à mentionner à notre auditeur, c'est que là il est 16h, qu'on est à la boutique et qu'il n'y a personne. Qu'est-ce que vous faites ? Non,
venez !
Si un dernier mot, nous, écoutez, on serait super heureux de vous accueillir dans notre boutique au 10 rue des Tanneurs. On est une boutique très jeune, donc on sera sûr de vous remercier de votre confiance et ce serait super cool d'avoir un peu de monde, des gens nouveaux en fait, tout simplement, qui viennent à la boutique. On offre le café. Aux gens qui achètent chez nous et avec qui on aime beaucoup discuter. Et puis, après, si j'avais à donner un conseil à nos amis luthiers qui nous écoutent ou à nos amis musiciens, pour les luthiers, croyez en vos rêves, et pour les musiciens, amusez-vous bien et croyez en vos rêves aussi. Hein.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis, c'était un plaisir.
Merci d'être venu en tout cas.
Merci beaucoup d'avoir présenté D'Albergia, William. Cette émission sera également en rediffusion demain à midi sur nos ondes. On se laisse sur une dernière touche de musique avec Téléphone de MDNS et Théa. Et nous vous souhaitons une agréable soirée.
Téléphone. J'ai plus de cigarettes, faut que je me téléporte. Fonce dans la ville, je sens mon télégramme. J'ai la tête ailleurs, je sais pas où aller.